Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour. Avant de retrouver notre invité du jour, deux petites news. Une fête, une lutte. Du 22 mai au 26, c'est la fête de la nature. Elle célèbre le monde vivant partout en France, et dont 303 événements en Occitanie. Parc national des Cévennes, massif des Pyrénées, pique-nique pédagogique, les zones humides de Camargue-Gardoise. Et à Montpellier, samedi, au zoo de Lunaret, 30 centres et animations vous feront tout savoir de la faune et de la flore du coin. Deuxièmement, l'évolution de la tête au carré sur France Inter nous rappelle que l'info va subir de grandes transformations à la rentrée. On parle de refonte du service public audiovisuel. On parle de la disparition de plusieurs émissions sur France Bleu, des émissions qui étaient destinées à l'environnement. On parle de la fin de Vert de Rage. On parle de l'évolution de la tête au carré. Donc, en fait, quel est l'objectif ? Eh bien, l'objectif, c'est de rendre l'info moins anxiogène en termes d'environnement. Est-ce que c'est possible quand on sait ce qui nous menace ? C'est aussi un virage éditorial, puisqu'on nous annonce moins de lutte et plus de science. Donc, en tout cas, pour nous, c'est à suivre. Aujourd'hui, focus sur le dessalement. Nous aurions pu donner la parole à un de ces grands groupes déjà largement installés dans le monde, comme Veolia, aux Émirats Arabes Unis, avec un contrat de 300 millions d'euros et qui va donner de l'eau potable à 2 millions de personnes, qui a déjà une centrale sur le territoire et donc qui s'installe maintenant à Marcy et toujours aussi en osmose inverse. Elle sera mise en service en 2025, mais nous avons choisi de recevoir Osmosun. Osmosun, c'est une petite start-up qui, aujourd'hui, est entrée en bourse et qui s'occupe effectivement du dessalement. Selon l'ONU, d'ici 2030, du fait du réchauffement et de l'augmentation des populations, les besoins en eau planétaire vont doubler. Près de 3,9 milliards de personnes pourraient être amenées à manquer d'eau, au premier rang desquelles figurent, bien sûr, les plus démunis. Et grâce à des technologies d'osmose inverse avancées, l'énergie nécessaire pour dessaler l'eau de mer a déjà diminué d'environ 80% depuis les années 1980. Mais désormais, donc, Osmosun, qui a été créé en 2014 grâce au soleil, propose des unités de dessalement qui peuvent fonctionner sans ou avec relais au réseau électrique. Elles sont efficaces, durables, et les unités fournissent entre 1000 et 50 000 mètres cubes par jour à l'aide de l'énergie solaire, uniquement, et sans batterie. Elles dessalent l'eau de mer, bien sûr, mais dans les pays africains, loin de la mer, l'eau profonde et l'eau saumâtre. Elle peut aussi répondre à une demande momentanée, un camp de base, une situation d'urgence. Écoutons Marc Vernier. Marc Vernier est un vieux de la vieille en termes d'environnement. Il avait déjà fait ses preuves dans les domaines de l'éolien et désormais, donc, il a lancé Osmosun.
L'état d'urgence climatique, il est déjà évident dans les pays du Sud, notamment ici au Bangladesh, désormais soumis à une invasion de ces terres par l'eau de mer, avec, pour conséquences prévisibles, l'obligation, là et ailleurs, pour des millions d'êtres humains de se transformer en migrants. L'eau qui vient à manquer à cause des sécheresses, ou l'eau douce qui devient impropre à la consommation et à l'irrigation parce que envahie par l'eau salée, l'eau est déjà devenue le problème numéro 1 de l'humanité.
l'eau concerne déjà 40% de l'humanité. 40% de l'humanité sont en stress hydraulique et ça risque de s'empirer.
Marc Vernier est en France l'un des meilleurs spécialistes du développement des pays du Sud. Il a inventé dans les années 70 et développé un système de pompe à eau qui permet à des dizaines de millions d'Africains d'avoir accès à l'eau potable.
Il fallait un outil nouveau de développement adapté à l'Afrique et que les villageois puissent prendre en charge.
Il est devenu ensuite, avec son entreprise orléanaise, le leader mondial des éoliennes adaptées aux régions qui subissent des cyclones. Aujourd'hui, à Chartres, il s'attaque au problème du dessalement de l'eau de mer.
Aujourd'hui, il se produit près de 40 milliards de mètres cubes d'eau par an, mais toujours avec des produits pétroliers. C'est-à-dire que pour un mètre cube d'eau produit, on émet 8 kilos de CO2. Ça ne peut pas durer.
Et alors, cette autre chose, c'est le soleil.
C'est le soleil. C'est le soleil qui... représente une énergie fabuleuse, surtout dans tous les pays où il manque d'eau, par définition. C'est surtout une énergie qui est devenue très économique. C'est des systèmes de production d'électricité qui ne demandent pas de main-d'œuvre ou très peu de main-d'œuvre. Aujourd'hui, les énergies renouvelables et le solaire sont la solution au problème de l'énergie et donc au problème de l'eau potable.
Bonjour Marc, Maxime Thérion, vous êtes responsable du développement à Osmosun. Alors, on vient d'entendre donc Marc Vernier. Bien sûr, on va reprendre un peu dans les détails tout ce qu'il vient de nous dire. Mais peut-être pourrions-nous commencer peut-être par le process même de Osmosun.
Bien sûr, bonjour. Donc effectivement, le procédé Osmosun, c'est vraiment l'association de deux technologies parfaitement matures et maîtrisées. D'un côté, l'osmose inverse qui est utilisée pour en très grande majorité tous les systèmes de dessalement depuis une vingtaine d'années, notamment et historiquement dans les pays du Moyen-Orient où le dessalement a vraiment été véritablement inventé. Et le solaire photovoltaïque qui permet de produire l'énergie la plus compétitive qui soit. Et il y avait vraiment une incompatibilité profonde à l'association de ces deux technologies directes, puisque, comme on le sait, quand il y a des nuages qui passent, on produit moins de solaire avec les panneaux solaires, et la nuit, on n'en produit pas du tout d'énergie. Donc la question, ça a été de faire fluctuer ces systèmes de dessalement par osmose inverse pour réussir à produire de l'eau au fil du soleil, et puisqu'en fait, il est véritablement très nettement moins cher de stocker de l'eau que de stocker de l'énergie. Donc le principe du procédé Osmosun, c'est vraiment ça, de dire on utilise l'énergie solaire lorsqu'elle est disponible et peu chère pour produire de l'eau qu'on pourra utiliser au fil des besoins, puisque de toute façon, l'eau est quelque chose qui se stocke facilement et on voit bien qu'il y a des châteaux d'eau partout. Il n'y a jamais une adéquation parfaite entre la production et l'usage de l'eau potable.
Très bien. Alors, en fait, c'est ça qui a permis de réduire le coût. Parce que quand on parle des centrales de dessalement, immédiatement, les gens voient les millions s'aligner. D'ailleurs, dans l'introduction que je faisais de cette émission, je rappelais que Veolia venait à Abu Dhabi d'installer une grosse centrale qui coûte des millions.
Effectivement, après, ce qu'il faut quand même bien garder à l'esprit, c'est que le dessalement, c'est pas la première solution qu'on déploie lorsqu'on a des problèmes d'eau. Et typiquement en France, c'est l'objet du plan eau du gouvernement français de l'année 2023, qui a été encore confirmé cette année avec des nouvelles mesures, de dire comment est-ce qu'on peut optimiser les usages, réduire les fuites, réduire la consommation des personnes pour vraiment essayer d'avoir un usage le plus frugal possible de l'eau. Et lorsqu'on a toujours un déficit, une fois qu'on a mis en place toutes ces mesures plus classiques, est-ce qu'on peut réutiliser les eaux usées en les traitant pour d'autres usages comme l'irrigation ou des usages qui soient pas de la consommation humaine, puisque en France c'est pas autorisé, même s'il faut bien le souligner, il y a des pays dans le monde où c'est autorisé.
Puis ça va l'être bientôt, très certainement. Enfin, dès qu'on saura maîtriser le bio-UV, très certainement on pourra utiliser les eaux usées. Enfin, on y travaille.
En France, la question n'est vraiment pas technique à ce sujet, c'est-à-dire que c'est vraiment une question d'autorisation.
Voilà,
techniquement, c'est possible et ça n'a simplement pas encore été autorisé en France. Ouais. Mais c'est lorsqu'on a fait tout ça que, enfin, on se penche sur le dessalement, parce que comme c'est souligné à de multiples reprises, en fait, retirer les sels de l'eau, c'est vraiment ce qu'il y a de plus compliqué, ou quasiment de plus compliqué, comme procédé de traitement. Donc, pour le cas de l'osmose inverse utilisée pour le dessalement, il s'agit de faire monter en pression le système jusqu'à 60 bars. Donc, on se représente bien que ça fait des niveaux de pression assez importants.
Non, on ne se représente pas bien. Dites-nous un peu. 60 alors, bars
60 bars, la pression de l'eau au robinet, elle va être à 2-3 bars.
Ah oui, d'accord. Là, je me représente mieux, voilà.
Voilà, ça donne un petit peu une illustration. Et donc, il faut vraiment faire monter cette eau de mer sous pression de manière assez importante pour pouvoir déclencher ce procédé d'osmose inverse. Et c'est ça, c'est cette mise en pression de l'eau qui permet de... Enfin, qui consomme beaucoup d'énergie. Donc, l'objectif qu'on a chez Osmosun, c'est exactement cette idée de réduire la consommation au maximum dans le procédé d'abord, et ensuite, en plus de ça, essayer d'utiliser un maximum d'énergies renouvelables, qui sont les énergies les moins chères, donc sans batterie, sans réseau, pour faire des systèmes qui peuvent être petits, et justement sur des budgets qui sont aussi raisonnables que possible, mais encore une fois, hein, dans la mesure d'un usage à bon escient lorsque c'est pertinent. Hein. Ça,
c'est, alors,
c'est
encore...
pas une solution qui sera moins cher que de traiter de l'eau de rivière.
Oui, j'allais vous dire. De toute façon, vous n'êtes pas seulement sur le dessalement de l'eau de mer. Vous avez aussi décidé, justement, enfin, c'est ce que nous dit Marc Bernier dans son petit sonore, c'est que vous avez décidé aussi de travailler dans des pays comme l'Afrique, où on a de l'eau en profondeur, mais qui est salé, enfin qui est saumâtre, quoi. Et donc là, on est loin de la mer.
Exactement. En fait, c'est un contexte où on a de l'eau souterraine qui va se retrouver saumâtre, soit par des infiltrations à travers des couches de roches qui vont être salées ou riches en différents minéraux qui vont faire que l'eau de la nappe va ensuite se retrouver contaminée avec des sels ou avec du fluor. C'est le cas au Sénégal, on voit... On se représente bien dans les régions, il y a beaucoup de fluor, l'état des gencives des habitants sont tout de suite très visibles, un petit peu rouges, et ça se voit très nettement, c'est parce qu'il y a du fluor dans l'eau. Et donc typiquement, les systèmes d'osmose inverse, Osmosun, permettent de traiter les eaux de mer, évidemment, c'est possible toujours sur la côte, mais bien sûr aussi de l'eau dans un forage qui irait chercher de l'eau contaminée avec des sels, du fluor dans les nappes souterraines. Et de la même manière, c'est des systèmes qui peuvent fonctionner en autonomie complète, avec quelques panneaux solaires donc, et un château d'eau associé pour ensuite distribuer l'eau 24 heures sur 24. Donc complètement, c'est le cas donc au Sénégal, c'est le cas au Mozambique, c'est le cas à Madagascar, en Égypte, au Kenya, tous ces pays où on a installé des systèmes qui, à partir d'eau souterraine saumâtre, produisent de l'eau qui est utilisée soit pour la potabilisation, donc pour la consommation humaine, soit pour l'irrigation de cultures agricoles, soit même pour des procédés un peu plus d'entreprise et d'apporter de l'eau pour l'activité économique, comme c'est le cas à Madagascar aussi.
Donc là, Osmosun fonctionne déjà.
Dans tous ces pays que j'ai mentionnés, les systèmes Osmosun fonctionnent. Au 31 décembre 2023, on avait 69 systèmes en opération. Donc on est sur des systèmes qui sont parfaitement éprouvés, qui fonctionnent depuis plusieurs années et qui sont même exploités soit par des entreprises, soit même par des agences publiques en fonction des contextes locaux.
Alors qui sont vos clients? Ce sont les États, ce sont les petits villages, ce sont les associations. C'est quoi un peu le profil de vos clients?
Alors, donc nos clients, c'est effectivement la grande majorité de nos clients sont des clients du secteur public. Donc ça peut être soit géré par des municipalités, donc vraiment au niveau local comme c'est le cas en France, soit ça peut être géré par des agences nationales, donc là plus au niveau central, et qui puissent ensuite être financées soit par le budget du pays directement, soit par des prêts d'agences ou des dons même d'agences internationales de financement, comme la Banque mondiale, comme l'UNICEF, comme l'Agence africaine de développement, l'Agence asiatique de développement, tous ces financeurs de projets d'infrastructure qui viennent permettre à ces pays qui n'ont pas forcément des ressources en propre suffisamment conséquentes pour payer le développement de leurs projets d'infrastructure, d'effectivement développer ces projets vitaux pour les
autres. Et alors, ensuite, vous venez-vous sur le projet pour un peu éduquer les gens? Enfin, je suppose d'ailleurs qu'on a majoritairement des femmes qui sont intéressées par cette arrivée de l'eau directement, elles perdent, on sait combien de temps elles perdent à aller chercher l'eau, etc. Et je suppose donc que ça les intéresse particulièrement. Est-ce qu'il y a besoin d'une formation ?
Alors, il y a effectivement plusieurs profils. Il y a vraiment les usagers, ceux qui vont venir à ces bornes fontaines pour remplir les bassines, les cuves, les citernes, peu importe le format de ce qu'ils viennent remplir. Et dans ce cas-là, on constate particulièrement, par exemple, au Mozambique, que ça va être souvent porté par les femmes, comme vous le disiez. Ensuite, on a des contextes comme peut-être l'Indonésie, plus rurale, donc sur des petites îles de l'Est indonésien très arides, où là, on va vraiment avoir une activité économique qui va être permise par ces systèmes de dessalement
solaire. Donc l'agriculture, quoi. En fait, c'est les agriculteurs, là, qui sont...
Là, c'est l'agriculture, ça a été le cas, par exemple, sur des pays comme le Cap-Vert. Sur l'Indonésie, c'était vraiment plus de dire, on va avoir de l'eau qui va être ensuite revendue à des charretiers qui, avec leurs charrettes et leurs citernes, vont ensuite aller distribuer l'eau dans les villages. Et surtout, qui va, sur une autre partie, en plus, permettre de produire de la glace, qui elles-mêmes permettront aux pêcheurs de préserver leur pêche du jour. Et ça, c'est vraiment de l'activité économique directe permise par l'arrivée de l'eau.
Et on ne se rend pas compte à quel point c'est énorme. Par exemple, toute la pêche s'est écroulée en Haïti à cause de ça, parce qu'on n'avait pas de système de glace. Et on a encore des tas d'endroits où la pêche recule parce qu'on n'a pas de système de glace. Donc, vous êtes à la fois pourvoyeur finalement en eau, en glace. Donc, voilà. Est-ce qu'on a déjà des industries qui commencent à se greffer sur vos systèmes?
Alors, je mentionnais effectivement l'industrie agricole. Hein, sur le cas du Cap-Vert, on avait eu des problématiques sismiques qui avaient fait que les nappes d'eau douce qui étaient permises, qui étaient remplies par les précipitations annuelles, qui ont été chamboulées en fait par des tremblements de terre, avec donc des intrusions d'eau saline, d'eau salée, d'eau de mer dans ces nappes phréatiques, qui font que les nappes sont devenues salées. Et à ceci, associé au fait qu'il y ait de moins en moins de précipitations et qu'elles soient de plus en plus irrégulières, on fait qu'il y avait ce déficit en eau qui a entraîné une migration des populations vers les villes, en fait, puisqu'ils n'avaient plus leurs moyens de développer leur agriculture vivrière. La plupart du temps, c'était vraiment ça. Et donc, là, dans ces contextes au Cap-Vert, on a développé pour le FIDA, donc c'est une agence des Nations Unies pour le développement de l'agriculture, ce projet où on va bien dessaler l'eau souterraine saumâtre au service de l'agriculture, donc avec des tomates, des produits maraîchers un peu divers et variés du Cap-Vert, qui viennent permettre de développer l'industrie agricole du pays et en plus prévenir l'exode rural dans ce contexte précis.
Alors c'est énorme, vous avez à vous occuper finalement de la mise en œuvre, ensuite des formations, etc. Et alors... On se pose une question aussi quand on travaille comme on le fait par exemple sur Montpellier sur les problèmes de la ressource eau, puisque on a avec l'UNESCO une formation maintenant à cette sobriété par rapport à l'eau. Est-ce que vous avez une connaissance justement des forages que vous effectuez dans les nappes profondes? Est-ce que vous commencez à avoir est-ce que vous faites attention à ces forages? On sait par exemple qu'en Tunisie, on a eu souvent des forages dans des nappes phréatiques qui étaient internationales et le pays prélevait trop d'eau. Donc est-ce que vous rencontrez ce type de problème? Ou bien est-ce que vous êtes obligé aussi, parce que c'est la première fois finalement que l'eau arrive presque courante, est-ce que vous êtes obligé de faire une éducation à la sobriété et à l'usage de l'eau?
Alors effectivement, c'est un point d'attention extrêmement important pour nous qui voulons faire des projets les plus durables possibles. Sur un projet qu'on va mener de bout en bout, on va typiquement avoir besoin d'avoir une étude hydrogéologique, donc vraiment de l'hydrologie du sous-sol, qui va être réalisée par des experts, hein, ça peut être les bureaux du BRGM en France par exemple, qui vont établir des cartes des eaux souterraines, partir de en fait de sondages, hein. La plupart du temps c'est la meilleure manière de savoir ce qu'il y a dans le sous-sol, c'est d'effectivement forer, sonder, essayer de sentir les différentes nappes, à quelle profondeur, et d'évaluer ensuite quel va être leur niveau de production d'eau possible de manière durable, donc pour qu'il puisse y avoir un renouvellement naturel de débit de ces nappes, pour pas qu'elles soient surexploitées, parce que lorsqu'elles le sont, elles peuvent effectivement soit s'assécher, soit entraîner des intrusions d'eau salée. Si on est à proximité de la mer, la nature ayant horreur du vide, on va avoir naturellement l'eau de mer qui va s'infiltrer dans la nappe.
À qui dites-vous, nous ici, avec les temps de taux, et puis les vignes, elles sont absolument soumises justement à ce type de problème avec la montée des eaux.
Exactement, d'autant plus que avec la montée des eaux chamboule l'équilibre des forces entre l'eau de mer et les nappes phréatiques.
Absolument.
Donc c'est un point extrêmement important et d'attention pour nous. Et on va avoir donc tout ce travail préparatoire amont d'évaluation du volume qui peut être prélevé dans la nappe, qui peut être fait soit par nous, soit par le client. Hein. Parfois on a des agences publiques qui vont faire tout ce travail pour nous et ensuite nous dire on a la capacité à prélever tant. Est-ce que vous pouvez venir ajouter un système de dessalement? Et c'est là qu'on va avoir, nous, notre périmètre, qui va être d'installer les systèmes, de les déployer, de former les opérateurs, potentiellement un petit peu de sensibilisation sur les usages. Mais là encore, c'est souvent le mieux fait par des agences et des organisations locales qui connaissent déjà très bien les usages et qui sont à même d'apporter des recommandations avec les codes culturels locaux qui sont beaucoup mieux connus, mieux maîtrisés que nous qui quand même venons de l'international avec notre solution qu'on amène, mais qui est une brique de l'ensemble des prestations qui sont à réaliser pour cadrer en amont et ensuite venir...
Ah oui, alors vous devez donc cadrer en amont justement avec toute cette... Parce que la culture de l'eau est quelque chose qui est très particulière. Elle est très différente d'un pays à un autre. D'ailleurs, je pense qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres sur la gestion de demain. Mais c'est fait par qui alors? Par les gens du coin? Par justement les organismes internationaux? Est-ce qu'ils n'ont pas une vision trop globale des choses?
Peut-être que je peux citer l'exemple de Madagascar, qui est une île où il y a historiquement des précipitations relativement régulières, beaucoup de reliefs qui permettent de faire une forme de château d'eau naturel dans le relief et les montagnes du pays, les hauts plateaux du pays. Des précipitations qui sont souvent la plupart du temps associées à des périodes de cyclones et de tempêtes tropicales, donc avec une saison bien particulière de l'année. Et le changement climatique a un petit peu chamboulé tout ça. Donc il y a vraiment eu des périodes qui ont été de plusieurs années sans précipitations, qui ont entraîné des sécheresses importantes dans le sud du pays et un chamboulement de l'usage de l'eau. Parce que historiquement, à Madagascar, il y a bien cette notion de dire l'eau est un bien commun et l'eau doit être gratuite. D'accord, ça peut être débattu. Et en fait, la distinction elle est faite entre l'eau et le service de l'eau. C'est-à-dire que l'eau peut être gratuite, mais le service
de l'eau
d'aller chercher de l'eau à un robinet, d'aller chercher une eau qui va être potable, qui va être purifiée et nettoyée pour s'assurer qu'elle ne véhicule aucune maladie, parce que c'est vraiment les problématiques que ça pose. Hein. S'il y a des populations, c'est qu'il y a bien de l'eau, mais c'est plus qu'elle va être saine et que les nourrissons ne vont pas avoir de problèmes de santé, notamment et les personnes fragiles au sens un peu plus large, en consommant une eau qui ne soit pas saine. Et donc, on a cette distinction entre l'eau et l'usage de l'eau. Et ça va être des agences comme l'UNICEF qui, effectivement, ont des bureaux qui vont être basés auprès des Nations Unies à l'étranger avec une vision un petit peu globale. Mais on va aussi avoir des bureaux locaux qui sont constitués pour une bonne partie d'employés pour Madagascar malgaches qui vont parfaitement connaître le contexte, qui vont être originaires de ces mêmes régions et qui vont être à même de savoir identifier au mieux quels vont être les besoins. Et de toute façon, ça ne va pas être un projet que l'UNICEF va décider de faire en déconnexion complète des autorités locales. Ça va de toute façon être en bonne coordination avec eux et s'insérer dans une structuration d'un programme pluriannuel, donc sur plusieurs années d'investissement dans le secteur de l'eau. Et c'est ce qui va permettre d'avoir un projet qui, à la fois, va répondre parfaitement aux besoins, mais surtout va permettre de s'inscrire dans le temps long et avoir un vrai impact sur les habitants et les personnes localement présentes pour qu'ils veuillent pérenniser et contribuer à la durabilité du système en payant l'eau un petit peu tous les jours, finalement, en payant pour ce service de l'eau.
Alors, ça, c'est très, très intéressant. Mais on va bientôt, malheureusement, être obligé de nous quitter. Vous voyez l'avenir du dessalement dans le monde de quelle manière, hein? Est-ce que vous croyez que... Alors, j'aime bien parce qu'à un moment donné, vous avez dit... On ne le met pas en avant trop. Finalement, ce n'est pas la solution qu'on préférerait. Mais on sait qu'on va y passer beaucoup quand même.
Exactement. C'est quelque chose qui, malheureusement, devient un petit peu inéluctable. Et on peut citer plusieurs exemples pour l'illustrer, hein. Et on peut commencer avec un pays comme le Maroc, qui, historiquement, a jamais eu besoin du dessalement, avait des précipitations relativement régulières sur une large façade atlantique, avait des montagnes qui, encore une fois, faisaient un château d'eau naturelle, avait de la neige dans les sommets qui permet de niveler un petit peu la fonte de la glace, enfin de la neige, pour avoir de l'eau qui vient être distribuée sur une bonne partie de l'année, et avec des régimes de précipitations qui changent, encore une fois, moins de pluie, des températures plus élevées, donc moins de neige, on se retrouve avec toujours cette alternance entre beaucoup plus d'eau quand il y en a trop, et quand il n'y en a pas, il y a un vrai et véritable manque et durable. Et donc, le Maroc, combiné en plus à une augmentation de la consommation, non pas parce qu'il y a plus de gaspillage, mais tout simplement parce qu'il y a un niveau de vie qui va augmentant. Lorsqu'on a des logements plus informels, on va forcément consommer moins d'eau que lorsqu'on va avoir l'eau courante avec des toilettes et simplement un logement du confort moderne. Et dans ce cas-là, on a une pression des deux côtés. Du côté de la demande en eau, elle va croissante, et du côté de l'offre de l'eau disponible, elle va décroissante. Et dans ce cas-là, le Maroc a choisi de dire, pour m'assurer que je n'ai pas de problématique de déficit entre des équilibres naturels de l'eau, je vais commencer à faire du dessalement. Donc ça a commencé de manière assez marginale dans le grand sud marocain et progressivement c'est remonté. Et on voit que ce front de la soif remonte jusque Barcelone aujourd'hui. Barcelone qui avait choisi initialement de faire du dessalement en secours, un système qui devait être potentiellement arrêté s'il n'y avait pas de besoin pendant plusieurs années. C'est le cas de l'Australie. Les grandes villes australiennes ont toutes des systèmes de dessalement qui parfois ne fonctionnent pas. S'il pleut suffisamment, ils ne les utilisent pas. Par contre, c'est une bouée de sauvetage. S'il ne pleut pas, ils ont la possibilité de l'utiliser. Mais ce qu'on constate, c'est qu'à Barcelone, c'est un système qui fonctionne aujourd'hui à pleine puissance, qui est même insuffisant, parce que les régimes de précipitation semblent avoir changé de manière, finalement, durable et pérenne, de dire il y a moins de pluie, c'est structurel et il va falloir s'adapter et donc commencer par dessaler parce que on essaye en parallèle d'avoir des réseaux qui sont optimisés avec des fuites qui sont baissées au maximum, des usages frugaux en termes de consommation, mais malgré tout ça ne suffit pas, donc on doit se mettre au dessalement. Et donc quitte à se mettre au dessalement, autant faire du dessalement le plus durable possible.
Bon, merci Maxime, on va être obligé malheureusement de se quitter parce que là on déborde de partout, c'est le cas de le dire, mais on se retrouvera, je suis sûre que vous avez encore des milliers de choses à nous raconter, donc au revoir, merci beaucoup, nous on merci se retrouve à Nous n'avons qu'une terre la semaine prochaine, et bien pour les news du mois.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, de Nurovno, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.